On est en train de leur faire une instruction sur comment se comporter en nature.
Alors, c'est une autre approche, comme on leur apprend aussi de pas ramasser les fleurs, parce qu'il faut aussi les laisser, parce que maintenant il y a les abeilles, il y a d'autres insectes qui ont besoin, puis que ces fleurs, certaines font des fruits. Alors on donne une petite instruction douce sur comment se comporter dans la nature aussi, que on est dans la nature, mais il y a aussi des animaux qui vivent là, puis il faut respecter aussi ce cadre. On nous offre.
Ouais, effectivement, qu'on a la chance d'avoir, en plus, dans notre magnifique région, de la forêt, on en a, et de la nature, on en a beaucoup. Et c'est marrant, parce que moi, c'est plutôt le genre de truc qu'on allait apprendre quand j'étais petit, en promenade d'école. Là, en fait, quand on arrivera en école primaire, les enfants, ils seront déjà prêts, un petit peu, à se comporter en nature, en fait.
On leur apprend à respecter la nature, donc, parce qu'ils ont, les petits, ils ont tendance à tout ramasser. Ils adorent tout ramener, une fleur, un caillou, un glin, un marron, on a tout ça dans notre forêt, hein. Donc, on leur apprend à respecter ça, en définitif. Et puis, on n'a pas inventé la roue. Moi, ça me rappelle, dans ma jeunesse, on jouait dans la forêt, on n'avait pas de jeux électroniques, on n'avait pas de très peu de jouets en plastique. Donc, qu'est-ce qu'on faisait? On allait se promener en forêt, et puis, on jouait avec ce qu'on trouvait sur la place, quoi. Là, Ils sont donc cette expérience-là, maintenant.
Ah, ça, c'est hyper fun. Et Dieu sait qu'on se marrait à faire les bouquetins dans la forêt, en haut, en bas. Et puis, c'est vrai que de temps en temps, je parle pour moi, avec mon frangin, c'est possible qu'il y en ait un ou deux qui rentrent avec une bosse. Mais enfin, bref, c'était ça, la forêt. Et d'ailleurs, je vous propose qu'on fasse une petite pause musicale. J'ai choisi une chanson tout à propos. Vous arrivez à la lire par-dessus mon épaule. J'ai choisi une chanson de Henri Dess qui s'appelle « Ma forêt ». Henri Dess, ça marche à tous les coups, on est d'accord?
Oui, j'aime bien. Nous aussi.
Bonne nuit sur Radio Chablais.
Va des rétro, ananas.
Je suis désolé, je comprends pas.
Attends, je t'explique.
Sur Radio Chablais.
Ah, c'est tout de suite beaucoup plus clair.
La crèche en forêt, c'est un peu comme une crèche normale, mais à l'extérieur, toujours accompagnée et encadrée par des adultes, les enfants vont d'une part apprendre à respecter la nature et leurs habitants, mais aussi à s'amuser dans cette nature, comme l'ont fait les êtres humains depuis la nuit des temps. Et on fait en fonction des saisons dans ces crèches en forêt. Exemple aujourd'hui, il faisait froid, du coup ils ont fait un feu, et les enfants savent déjà comment se comporter avec le feu. Sylvie Rossier et Jean-Charles Mützenberg, des baroudeurs de la crèche Les Baroudeurs du Caillou à Saint-Trifon, vous expliquiez tout à l'heure que vous étiez dans une forêt privée, que c'est encadré, donc la forêt elle-même est délimitée, ils ne peuvent pas partir où ils veulent, les enfants, on est d'accord?
Oui, alors on redit tous les matins les règles. On a une petite porte à l'entrée, c'est symbolique parce que c'est une porte en escargot qu'on a fait, et dès qu'ils passent cette porte, ils savent qu'ils n'ont plus le droit de sortir de cette porte. Et puis on a une barrière qui délimite, et ils savent qu'ils n'ont pas le droit d'aller derrière leur barrière et pas le droit d'aller tout seul dans la forêt. Et c'est une règle qu'ils respectent.
En fait, ils sont responsabilisés finalement. C'est pas, on les oblige pas à dire attention, c'est pas un truc martial, c'est leur dire regarde ce qu'il y a autour de toi, fais attention au-delà de là, de cette limite, faut pas y aller parce que.
Oui, on explique bien les règles chaque fois. Le matin, on fait un petit moment d'accueil, on fait les chansons et après, on réexplique les règles aux enfants comme on a une règle qui est très importante. Si ils sont cachés derrière notre petite cabane des toilettes sèches, parce qu'on a des toilettes sèches, si on les appelle, ils doivent nous répondre. Et c'est une règle qui marche très très bien, même avec des petits de 2 ans.
Donc en fait, ils sont totalement responsabilisés à se comporter comme il faut dans la nature. Et ça, c'est peut-être un des points différents, parce que j'imagine qu'il doit quand même y avoir des points communs avec les autres crèches. Quels vont-ils être, Sylvie Rossier?
Alors, dans le développement, dans les activités qu'on propose, il y a quand même des similitudes avec les crèches à l'intérieur, parce qu'on propose aussi du transvasage comme ils le font dans les autres structures. Il y a de la motricité, voilà, tout ça c'est en commun.
Aussi, on fait des lectures, des bricolages aussi, on essaye. Peut-être la différence, c'est qu'on essaie de trouver. C'est ce qu'on essaie de trouver, ce qu'on sur place, le matériel pour pouvoir faire les bricolages. Mais il y a certainement des similitudes par rapport à ça.
Et puis, ce que je dirais, on a des règles propres à nous-mêmes, comme par exemple, ils ont le droit de courir. Forcément, des fois, on peut pas faire
en intérieur,
dans une salle s'ils se mettent tous à courir. Si c'est pas la salle qui est appropriée à ça. Autrement, au niveau créativité, on a de la chance de pouvoir utiliser tout ce qu'on a sous la main pour construire des petites cabanes avec du bois, des feuilles. Alors, ils peuvent vraiment s'amuser avec ce qu'ils trouvent dehors.
Et puis moi je me posais la question, mais ça c'est à nouveau mon enfant qui ressort. Et les combats d'épée avec les bâtons, ça va encore ou...
Alors ça, je dirais que c'est une règle à sa propre structure. Nous, on a la règle qu'on a le droit de, d'un coup, incarner un pirate qui est dans la forêt et qu'on a, parce qu'on a, en plus, on a fabriqué un avion en bois. Les enfants peuvent aller sur l'avion. Ou, voilà, on est des chevaliers qui courront à travers la forêt. Voilà. La seule règle, c'est qu'ils n'ont pas le droit de se taper avec les bâtons.
De toute façon, ils n'auraient pas le droit de se taper sans non plus, on est
voilà.
D'accord.
Alors ça, c'est sûr.
Et puis, c'est quoi ces grosses différences qu'on va pouvoir retrouver, en plus que du matériel et puis être à l'extérieur? C'est quoi la principale différence pour un papa ou une maman, peut-être, qui serait intéressé, dit tiens, je serais intéressé à mettre mes enfants dans une crèche? C'est quoi la principale différence? Allez-y.
Moi, je dirais c'est parce qu'on est dehors par tous les temps, sauf en cas d'orage et en cas de grande tempête de vent, où là, on a une salle de repli. Mais je dirais que c'est ça la différence, c'est que déjà on fait pas mal de balades où on va à la rencontre des animaux parce qu'on a de la chance de pouvoir bénéficier des endroits où on peut aller à la ferme. Ce contact-là, autrement, d'avoir la joie de pouvoir se salir.
Oh, c'est tellement bien ça.
Moi, je pense que c'est vraiment le truc le plus important. C'est tout ce qui est boue, tout ce qui est. Ils ont le droit, hein, donc ils sont habillés pour. Ils ont des habillements chauds quand il fait froid. Et donc, ça va à fond, c'est un fond la caisse. Je fais ce que je veux avec la terre. Je fais ce que je veux avec les cailloux et tout ça, quoi. Les épées, il y a une sensibilité qui sont un peu différentes entre les garçons et les filles.
Sans blague.
Par rapport au jeu qui s'estompe, on a vu maintenant avec les petits. Donc, on a fabriqué des épées. C'est tout fabriqué avec du bois. C'est fabriqué avec ce qu'on trouve sur place. C'est ça le jeu, c'est l'imagination qui est au pouvoir là. C'est notre imagination, parce que des fois on les guide, mais c'est surtout la leur qui va décider après de ce qu'ils veulent faire, quoi. C'est ça qui est super intéressant, quoi.
En fait, ils viennent vers nous et puis ils nous disent comme l'histoire de l'avion. C'est un enfant, un jour il a dit oh, moi j'aimerais prendre l'avion. Et puis on a dit ok, comment on pourrait faire? On a été tous ensemble, on a regardé, on a trouvé une grande planche. On a mis une planche. Qu'est-ce qui manque à l'avion? Ah, il manque une hélice. Jean-Charles a fabriqué une hélice pour mettre devant. Et c'est tout ça qui est chouette, parce qu'on rentre vraiment dans leur jeu avec eux. C'est eux qui disent après ce qu'ils voient ou ce qu'ils découvrent. Ah, Jean-Charles, viens, Sylvie, viens. On a aussi un apprenti, Anton, vient nous aider, ou Rachel, notre collègue. Dire, tu viens nous construire une petite cabane pour les lutins. Alors, c'est parti, on y va. Mais c'est pas nous qui allons dire « Ah, on va faire !» C'est eux qui viennent plutôt nous chercher, et puis on les aide, on les guide un petit peu, à, des fois à la construction, mais ils ont des très très bonnes idées pour fabriquer.
Bien devant le micro,
oui,
sinon dès qu'on on n'entend plus. Donc en fait, c'est le pouvoir de l'imagination qui est au pouvoir, jamais mieux dit.
Oui, exactement.
Ça et puis, et la saine saleté, j'ai envie de dire. Non, parce que sérieux, on est d'accord que moi, si je pouvais, une des raisons pour lesquelles je pourrais revenir en enfance, c'est justement pour pas avoir à me soucier et puis de rentrer à la maison plein de boue. C'est quand même quelque chose de salutaire quelque part.
Alors les enfants, ils le disent très bien quand ils viennent vers nous puis qu'ils sont tout sales. C'est pas grave, papa et maman, ils lavent à la maison. Et on a dit t'es là pour t'amuser et puis d'avoir du plaisir. Alors c'est ça qui est important.
Bon, déjà, une petite pensée toute particulière pour papa et maman qui lavent à la maison, parce que j'imagine qu'ils vont d'ailleurs avoir du boulot tous les jours. Mais, et puis, qu'est-ce qu'on pourrait dire justement à une personne, à un papa, une maman, qui dit, tiens, pourquoi pas essayer d'envoyer mes enfants dans une crèche en forêt? Qu'est-ce qu'on pourrait leur donner, alors qu'ils auraient peut-être une petite crainte, ou qu'est-ce qu'on pourrait dire pour les motiver finalement?
N'hésitez plus. On est, je vais dire un petit peu par rapport à l'équipe. On est une équipe dynamique qui s'entend très très bien. Et puis, on est tous dans la même idée. Ce qui
aide la même vision,
voilà, la même vision pour. Parce que déjà, il faut avoir cette vision-là pour travailler dehors. Hein.
Oui.
Et puis.
C'est le sens qu'on voulait donner à ça. Ça a été un grand questionnement. Ok, on avait l'idée, il faut aller aux forêts, il faut aller s'amuser dehors. Tout ça, c'est génial, c'est très romantique, c'est magnifique. Mais après, quel est le sens définitif? Et puis, sans faire le lien avec ce que j'ai connu dans ma jeunesse, on a oublié tout ça. On a protégé nos enfants. Dès qu'il y a la pluie, ils restent à la maison. On n'ose pas les sortir. Oh non, on sort pas. Regarde, là, t'as vu le temps qu'il fait. Là, ils sont pas n'importe quel temps, ils sont dehors. L'environnement, pour eux, il est plus important. S'il pleut, on monte à la crèche. On leur dit, restez sous le tipi, là, vous êtes à l'abri. Non, non, on va sous la pluie. C'est incroyable. Tout ce qui est environnement est plus important pour eux. Ils l'ont assimilé comment je pourrais dire ça.
C'est naturel, quoi,
exactement.
Donc vous êtes en train de potentiellement former les futurs explorateurs de ce monde.
J'espère.
Mais ce serait tellement bien en fait. Bah écoutez, oui.
Je fais juste une parenthèse. On fait aussi les siestes dehors, si jamais. Et là, c'est assez sympa de les voir dormir dans leur sac de couchage. Ils sont tout emmitouflés et puis ils passent des très bonnes siestes.
Et ça sert à rappeler aussi que les enfants, ils sont équipés pour être dehors, on les amène pas naturellement comme ça. Non, ils sont full equipment et puis et tout va bien. OK, ben franchement, moi maintenant, je m'y connais un petit peu plus, maintenant ça me donne envie en fait.
Mais venez.
Vous prenez les adultes aussi. Voilà.
Pas
de super. Faut pas me le dire deux fois, faites attention. Merci infiniment Sylvie Rossier et Jean-Charles Mützenberg. Je rappelle que vous êtes éducateurs sociaux et assistants socio-éducatifs au Baroudeur du Caillou, une crèche en forêt à Saint-Trifon. Vous êtes venu répondre à la question, la crèche en forêt c'est quoi? Merci infiniment et excellente soirée à vous deux.
Merci à vous.
Retrouvez vos rendez-vous quotidiens durant la nuit.
C'est chaud. Sur le grill.
Fabienne Ferrari vous propose ce jeudi 25 avril à l'Ola de la Tuilerie à Saint-Maurice. Mon père, je vous pardonne. Fabienne Ferrari, bonjour.
Oui, bonjour.
Alors, expliquez-nous cette pièce. Alors, c'est issu du livre de Daniel Pittet, gros succès littéraire. Peut-être replacer déjà l'histoire dans le contexte.
Alors, Daniel Pittet donc, a écrit ce livre parce qu'un jour, il a rencontré le pape. Et puis, en discutant avec le pape François, il lui a décrit sa vie en disant qu'il avait été abusé sexuellement par un prêtre capucin à Fribourg, et le pape François lui a dit, si tu écris ton témoignage, si tu écris un livre, je te le préfacerai. Et le pape François a tenu sa promesse, gros succès littéraire, 30 000 exemplaires vendus, traduits en 8 langues, et c'est sur la base de ce livre que le metteur en scène Jean Cholet a fait une adaptation théâtrale et m'a demandé, en tant que comédien, d'interpréter Daniel Pittet.
Alors justement, il faut se placer dans le contexte. J'imagine que vous avez rencontré Daniel Pittet, vous avez beaucoup échangé avec lui. Ce qu'il faut comprendre, justement, je disais, ce contexte.
Oui, c'est juste. Alors j'ai la chance d'avoir un auteur encore vivant, ce qui fait que j'ai pu échanger avec lui. Pour moi, mon souci en tant que comédien, c'était de me rapprocher au plus juste de ce qu'il a voulu écrire en termes d'émotion, en termes d'intonation, et de ne pas trahir son propos.
Alors justement, comment on fait pour, en même temps, pouvoir adapter, donner l'essence même de la pièce, du texte, du livre?
On fait confiance au texte pour commencer. Ensuite, je suis comédien, donc quelque part c'est mon métier. Et puis les mots sont crus, les mots sont directs. Il explique vraiment ce qui lui est arrivé, mais surtout, et c'est le message à retenir, c'est son chemin vers le pardon, sa résilience, le fait qu'il a réussi à pardonner à son bourreau, il a réussi à construire sa vie sur ce pardon. C'est ce message-là aussi que nous passons dans ce spectacle.
Il prend, j'imagine, aux tripes ce texte, au niveau personnel aussi, doit donner de soi-même, c'est difficile.
Oui, c'est difficile, mais moi je me sens grandi de ce texte, parce que justement, non seulement je donne un message positif sur la force, quelque part, du pardon, mais aussi sur la manière dont cet homme s'est reconstruit après avoir vécu tous ses abus pendant 4 ans, entre l'âge de 9 et 13 ans.
Alors, vous le dites, hein, y a une sorte de résilience là-dedans. C'est aussi peut-être une pièce qui peut montrer, vous l'avez dit, la force du pardon, mais la force aussi de cette résilience et de cette envie de continuer à avancer. On peut continuer à avancer, que ce soit cette situation ou peut-être même d'autres.
Oui, absolument. Donc là, on parle d'une situation d'abus au sein de l'Église. On en a beaucoup parlé ces derniers temps, mais on peut élargir aussi ces problèmes d'abus dans toutes les familles au sens large du terme. Et c'est pour ça que je trouve que ce spectacle s'adresse vraiment à tout le monde, parce qu'on est face à un problème de société aujourd'hui. On s'aperçoit voit que les politiques, par exemple, font des campagnes contre l'alcoolisme, font des campagnes de prévention contre l'usage des drogues. Il n'y a pas encore grand-chose qui se fait au niveau des abus sexuels dans des situations sous autorité, que ce soit dans le sport, que ce soit dans l'autorité religieuse, que ce soit dans le show business, par exemple, aussi. Et là, oui, je passe un message également dans...
Un peu plus général.
Un peu plus général, merci, oui.
Mon père, je vous pardonne avec vous, Fabienne Ferrari, sur scène, une mise en scène de Jean Cholet, issue du livre de Daniel Pittet. C'est ce jeudi à l'Ola de la Tuilerie à Saint-Maurice à 20h. Monbillet.ch pour toutes les réservations. On se retrouve d'ici quelques instants. Fabienne Ferrari, restez bien avec nous.
C'est chaud, c'est chaud. Sur le grill.
Radio Chablais, programme de nuit.
Sur le grill.
Et on retrouve Cyril en compagnie de Fabien Ferrari pour la deuxième partie.
Mon père, je vous pardonne, c'est le spectacle joué par Fabienne Ferrari, mise en scène de Jean Cholet, issu du livre du succès littéraire de Daniel Pittet. Mon père, je vous pardonne, c'est ce jeudi à 20h à l'Ola de la Tuilerie à Saint-Maurice. Mon billet, .ch pour les réservations. Fabienne Ferrari, déjà, revenir aussi vers vous, parce que vous êtes l'acteur de cette pièce, vous avez des ateliers théâtre très célébrés, très connus, mais à la base, Fabienne Ferrari, vous n'êtes pas du tout du monde du spectacle et du théâtre, vous étiez dans la finance.
C'est juste, moi j'ai commencé une carrière dans la finance, et à l'âge de 43 ans, j'en avais un petit peu... comment exprimer ça, assez de travailler pour la satisfaction de l'actionnaire, toujours, et je me suis dit, voilà, je vais retomber, reprendre mes premières amours, c'est-à-dire la scène et le théâtre. J'ai fait beaucoup de théâtre quand j'étais enfant, adolescent, on m'a dit c'est pas un métier, faut faire autre chose, j'ai fait autre chose et puis j'ai craqué à 43 ans, je suis revenu. Oui.
Vous êtes maintenant l'actionnaire de votre vie en fait, vous menez votre barque et votre plaisir.
Mais quelle belle image, oui c'est exactement ça. Et effectivement j'ai créé des cours de théâtre à Lausanne, ça s'appelle Atelier Théâtre Fabien Ferrariste au Flon. Chez moi la plus jeune élève a 4 ans et la doyenne on a juste 86 de plus.
C'est énorme.
Oui, 150 élèves, il y a des cours de théâtre tous les jours. Je pars du principe qu'on a passé beaucoup de temps à apprendre à écrire, beaucoup de temps à apprendre à compter, pas assez de temps à apprendre à nous exprimer. Et chez moi, on s'exprime.
On s'exprime et justement, ça fait du bien de s'exprimer, que ce soit, vous l'avez dit, à 4 ans ou à 90 ans. C'est important parce que on reviendra sur la thématique du « Mon père, je vous pardonne » qui est l'image même de l'expression révélée. Mais il faut parler, il faut dire les choses, il faut pas garder au fond de soi.
C'est juste, faut libérer les paroles dans toutes circonstances. C'est parfois plus compliqué. S'exprimer, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire exprimer soi-même. Le théâtre, pour ça, c'est un outil extraordinaire parce qu'évidemment, on travaille sur les émotions, la joie, la colère, la tristesse, la peur et ce genre de choses. Plus on avance dans son apprentissage théâtral, plus on va commencer à graduer ses émotions, petite joie, grande tristesse, petit blues passager, etc. Et s'exprimer, c'est absolument fondamental. Oser dire qui on est, oser dire ce qu'on a envie de dire.
Alors justement, mon père, je vous pardonne, c'est le livre de Daniel Pittet qui parle justement de son expérience des abus dans l'église. Vous le jouez sur scène ce jeudi à Saint-Maurice. C'est fort hein, aussi dans la symbolique par rapport au lieu.
Oui, c'est fort. C'est une symbolique qui me parle. Moi-même, j'ai vécu mon enfance dans des internats catholiques. Alors, j'ai pas du tout la même vie que Daniel Pittet. Fort heureusement, je n'ai pas été abusé. Mais néanmoins, il y a des références à la religion, il y a des références, je veux dire, aux internats, à tout ce qui entoure l'Église, qui m'ont parlé fortement. Donc ce livre m'a, d'une part, fortement touché, c'est sûr, donc j'ai eu très envie de l'interpréter. Puis moi, j'aime bien faire du théâtre aussi à dimension sociale, théâtre qu'on peut baptiser citoyen. Passer un message, là le message est extrêmement fort. Évidemment, la date de Saint-Maurice est éminemment symbolique aussi.
Alors, mon père, je vous pardonne, on le rappelle, Fabienne Ferrari, vous serez sur scène ce jeudi, mise en scène de Jean Cholet, Daniel Pittet, dernier mot sur Daniel Pittet, quelle vision il a de cette interprétation et de cette vision scénique des choses?
Ah, alors, il est très enthousiaste, évidemment, de ce qu'on a réussi à faire comme adaptation théâtrale de son livre. Il est présent pratiquement à chaque représentation, c'est-à-dire qu'à la fin, on fait ce qu'on appelle un bord de scène, qui n'est pas obligatoire, mais on invite les personnes qui le désire, à rester, à échanger avec Daniel Pittet sur ce qu'ils ont vu, sur ce qu'ils ont entendu. C'est toujours des échanges extrêmement riches et très extrêmement nourris.
indispensable, ce bord de Seine, on l'imagine. Mon père, je vous pardonne, Fabien Ferrari, vous serez sur scène ce jeudi, on le rappelle, à l'Ola de la Tuilerie, à Saint-Maurice, à 20h, monbillet.ch pour les réservations. Merci Fabien.
Merci à vous.
Sur le grill. Oh,
bonne nuit sur Radio Chablais.
Radio Chablais.
Le nombril du monde.
Le nombril du monde.
Bienvenue chez nous.
C'est plus grand que ce que je croyais.
Le nombril du monde. Eh, ça m'aurait mis du temps pour trouver quelqu'un pour venir ici. Alors que j'habite à une centaine de mètres d'Emmanuel Golu, mon très cher guide. On est à Colombey, c'est ici que se trouve le nombril du monde. Bon, sans ce que ça m'a coûté. Où est-ce qu'on se trouve, mon très cher guide, pour cette première capsule? Je voulais qu'on parle d'un lieu.
Alors, on se trouve vers l'église de Colombey. Pour moi, Colombey, c'est d'abord là où j'ai grandi, je suis né, et c'est là où j'ai mes racines. Et si je dois retenir quelques éléments de ma commune adorée, c'est d'abord les bâtiments, les vieux bâtiments, entre autres l'église, que je trouve absolument superbe, et notre maison de commune.
Pourquoi?
Parce que déjà, c'est beau. C'est tout du travail que nos ancêtres ont fait, même si la plupart de ces ancêtres venaient d'Italie, parce que peut-être que nos anciens à nous n'avaient pas les compétences nécessaires. Et puis c'est du granit de nos coteaux, je sais pas. J'ai une attache viscérale par rapport à ces vieux bâtiments et ces vieilles pierres.
Bon, là, on est devant l'église de Saint-Didier, une église toute blanche avec uniquement tout ce qui est gris. C'est justement ce granit qui provient des carrières qui étaient dans le bois des Fauges. Et vous disiez que c'était des ancêtres probablement italiens, c'était des noms de famille bien connus de la région, des Colombara et compagnie, qui étaient venus dans les années 1850 parce que, du Piémont parce qu'ils savaient casser le caillou, justement.
Tout à fait, c'est juste. Alors que nos anciens à nous partaient plutôt vers l'Amérique du Sud pour trouver du travail et de quoi se nourrir.
Oui, à ce moment-là, avec une période de grande famine en Valais en plus. Et puis, il y a deux, trois noms de famille en Argentine, bien valaisans, comme des Favre et compagnie. Et puis, vous disiez que il y avait le caillou ici, il avait vraiment beaucoup d'importance. Et puis, qu'il y avait du marbre de Colombey.
Alors, on disait toujours du marbre de Colombey parce que c'est un calcaire qui a une teinte légèrement rosâtre. Mais en fait, ce n'est pas du marbre, c'était un faux espoir, c'est du calcaire de Colombey. Mais c'est vrai que dans les tout vieux bâtiments, on va retrouver plus de ce vieux calcaire de Colombey que du granit. Je dirais jusqu'avant 1850, c'était plutôt le calcaire, puis après, le granit est venu.
Oui, c'est plus facile à travailler, le calcaire aussi.
Certainement, oui, beaucoup moins dur, effectivement.
Est-ce qu'on ose rentrer dans la paroisse de Saint-Didier? Quand même voir un petit peu ça de l'intérieur.
Et sur l'église de Colombey, il n'y a qu'un élément en calcaire, c'est la frise. Le tympan de la porte d'entrée où il y a Saint-Didier et Saint-Théodule, sauf erreur, qui sont gravés, ainsi que les armoiries de la commune.
Ok, alors on vient de rentrer. Il y a des grosses colonnes. En fait, ces colonnes, elles ressemblent un peu soit à l'église de Monté, soit un peu aux bâtiments communaux, colonnes de la région. C'est vraiment des grosses colonnes en granit, mais c'est un bloc.
C'est splendide, ce sont des monoblocs, c'est un travail remarquable. Et en plus, dans cette église, les vitraux sont aussi splendides. Un mélange entre le moderne et presque de l'abstrait, si on prend les vitraux d'une la nef. Mais j'adore ces vitraux. Et puis les deux mosaïques à gauche et à droite, le Christ et Marie, sont aussi splendides. C'est vraiment des éléments qui font partie de cette église et qui font qu'elle est belle, simplement. Autre élément peut-être spécial par rapport à cette église, c'est un clocher qui n'a pas de toit. C'est un clocher plat, et c'est assez rare.
Comment ça se fait, on sait ça?
Alors, j'ai entendu dire, j'ai pas de preuves scientifiques, que par rapport au terrain de Colombey, qui est sur la nappe phréatique, on avait peur que ce soit trop lourd pour le bâtiment lui-même. On avait peur d'alourdir le bâtiment avec un toit supplémentaire. Je ne sais pas si ces rumeurs sont fondées ou pas. Il faut demander à un ingénieur, puis je ne suis pas ingénieur.
Non, mais en même temps, ça pourrait se comprendre, parce que je pense que chaque colonne, là, elle a déjà son petit poids. On peut comprendre, mais le caillou, alors, le caillou de Colombey.
Oh, splendide, franchement, c'est extraordinaire. Mais il n'y a pas de carrière de Colombey, vraiment, par rapport au granit. C'est vraiment des blocs erratiques qui ont été cherchés dans les forêts. Et pour tous ceux qui se promènent dans les forêts de Colombey, c'est toujours étonnant de voir la largeur des chemins, les murs de soutènement qui restent encore de cette époque-là. Puis on pouvait voir vraiment qu'on montait dans les forêts avec des chars, des chevaux pour aller chercher ces cailloux dans les quatre coins des forêts de Colombey.
Le nombril du monde. Bonne nuit sur Radio Chablais.
La question improbable.
Pourquoi les pizzas rondes, on les met dans des boîtes carrées et on les coupe en triangle?
Sur Radio Chablais.
Je ne sais pas si vous êtes déjà posé cette question, mais pourquoi est-ce que quand j'ouvre
mon médicament, je tombe toujours sur la notice d'emballage. Et franchement, c'est agaçant. Alors, c'est vrai, hein, on peut observer d'ailleurs de ce genre de situation sur plein de choses. Vous avez un top blanc, qu'est-ce qui se passe? Ou vous renversez le café dessus. Ou alors, vous oubliez votre carte de bus le jour où il y a un contrôleur qui passe. Ou alors, vous voulez ouvrir un sachet de fromage et vous n'arrivez jamais à l'ouvrir correctement. Ça fonctionne pas. Et vous voulez ouvrir votre boîte de médicaments et chaque fois, vous tombez sur cette fameuse notice d'emballage. C'est en quelque sorte la loi de Murphy. La loi de Murphy, vous connaissez ? Il s'agit en fait de la certitude que tout ce qui peut mal tourner va effectivement mal tourner. C'est un peu comme un malheur qui n'arrive jamais tout seul. Si vous croisez un chat noir, vous dites, c'est sûr qu'il va y avoir plein de choses calamiteuses aujourd'hui. L'exemple le plus célèbre, vous savez, la tartine, cette fameuse tartine que vous venez juste de beurrer et de mettre plein de confiture dessus et elle tombe. Et qu'est-ce qu'elle fait ? Ben, elle tombe du mauvais côté. C'est inévitable. Ah ouais, une image de petit déjeuner catastrophique et puis on se dit, mon Dieu, mais la journée, ça va être tout long comme ça. Et du coup, on a une humeur de perdant et on a le sentiment qu'on va avoir que des ennuis. Alors, pour cette fameuse boîte de médicaments, parce que là, je m'égare. Est-ce qu'on peut conjurer ce mauvais sort? Est-ce qu'on est obligé fatalement d'ouvrir cette boîte du mauvais sens et de toujours tomber sur la notice plutôt que sur une plaquette de médicaments? Alors oui, on peut remédier à ce mauvais sort. Deux astuces que je vous donne. D'abord, pour ne pas vous faire avoir, selon certaines études, il semblerait que, parce qu'ils ont fait des études quand même, faut se le dire. Donc, selon certaines études, il suffit de l'ouvrir du côté où se trouve la date de péremption, soit à l'opposé de toutes les indications. Dans leur logique, ça correspond à ouvrir le fond de la boîte et c'est pour ça que les fabricants mettent toujours, la date de péremption du côté de la notice. Donc, non, le contraire. Là, je m'égare. Je me perds. Donc, si vous ouvrez votre boîte du côté de la date, vous êtes sûr de tomber sur les sachets. Parce que le réflexe, ça serait, pour nous, en fait, on voit une date, qu'est-ce qu'on fait? On va ouvrir de l'autre côté. C'est pour ça qu'ils mettent d'ailleurs la notice du côté où ils se disent, ils vont l'ouvrir de ce côté-là. Ou alors, un autre truc qui paraît qui fonctionne assez bien, si vous voulez pas trop vous embêter à chercher la date de péremption, il faut ouvrir l'emballage par le côté droit quand on est face à la boîte. Vous prenez la boîte, vous vous mettez face à elle du bon côté et vous choisissez le côté droite. Et dans la majorité des cas, la notice est glissée du côté gauche. Ben voilà, maintenant vous avez toute la situation en propre main et vous allez avoir une merveilleuse journée.
La question improbable.
Pourquoi les pizzas rondes, on les met dans des boîtes carrées et on les coupe en triangles?
Sur Radio Chablais, retrouvez vos rendez-vous quotidiens durant la nuit.
Le geste du jour.
Donc un peu de piment.
Ah oui, mais quel bon geste !
Sur Radio Chablais.
Une plante qui est très populaire en Europe, en Suisse également. On en est même carrément des fervents amateurs. On en plante des millions dans nos parterres et on l'utilise également pour décorer les balcons. On peut le dire, en Suisse, le géranium a en quelque sorte un statut de fleur nationale. Limite, si on ne le considère pas comme notre emblème, la Suisse avec comme drapeau un géranium, pourquoi pas? Bon, et en plus, on peut aussi souligner qu'il y a différentes expositions qui ont lieu consacrées au géranium, notamment à Berne par exemple. Mais saviez-vous que ce fameux géranium a de nombreuses vertus et on peut l'utiliser notamment en cuisine? Le geste du jour, utiliser son géranium en cuisine, rien que ça. Alors, bon, les géraniums, ça sent bon en règle générale. Et en cuisine et en pâtisserie, ben, apparemment, ça peut relever les saveurs des plats. Ça peut faire des belles décorations également. Petite touche unique, on peut dire. Ou alors, on peut l'utiliser en huile essentielle. En huile essentielle aussi, il y a l'huile essentielle de géranium. Il y a des variétés citronnées qui sont bien indiquées pour les salades, pour les sorbets et pour les infusions. Et puis, il y a aussi certains géraniums qui ont un peu plus un côté un peu comme la menthe, tout simplement. Après, on peut souligner que le géranium a des propriétés curatives. Donc, le geste du jour, ça serait de l'utiliser pour vous faire du bien, pour votre santé. On peut souligner notamment que cette fleur qui est native d'Afrique du Sud, on l'utilise pour soigner les maladies respiratoires. Certains géraniums interviennent également dans la préparation de remèdes contre le rhume. Rien que ça, me direz-vous. D'autres espèces ont un effet apaisant. Ça nous permet de lutter contre le stress, contre les états dépressifs. Alors ne faites pas tout et n'importe quoi. Allez voir quand même des spécialistes, on est bien d'accord. Et au hit parade de l'utilisation et du geste que l'on peut faire pour nos géraniums, c'est de l'utiliser contre les guêpes et les moustiques. Le géranium est odorant et il aide à repousser ces insectes qui sont franchement indésirables, on peut le souligner. Et ça va sauver nos nos soirées, sur nos terrasses. C'est pas pour rien que depuis des décennies, on met des géraniums au balcon. C'est justement parce que grâce à ces odeurs, elles chassent les moustiques. Et durant la nuit, si on peut éviter de se faire piquer par ces machins qui font bzzz, c'est plutôt agréable. Le geste du jour, donc, prendre soin de son géranium, car il fait du bien dans notre assiette, pour notre santé et pour éviter de se faire piquer.
Le geste du jour.
Un peu de piment.
Ah oui, mais quel bon geste !
Sur Radio Chablais. Radio Chablais, programme de nuit. Suis.
Voici les titres du journal.
Une course d'entraide s'est tenue dans les écoles du Haut-Lac vendredi passé. 1500 élèves ont bravé la fraîcheur matinale en faveur d'une future école pour jeunes indiennes et de l'association Rayon of Asha. Le festival Existe s'est déroulé samedi au Théâtre du Crochetan. Près de 500 visiteurs de milieux et générations diverses et variées ont plongé dans le milieu du hip-hop. La campagne du PLR Valaisan au municipal de cet automne est lancée. À Montet, le parti ambitionne de rafler la présidence de la commune sans se mettre de pression. Caroline Ulrich et Thibaut Dessène ont réalisé le doublé 2 ans après s'être imposés sur la petite patrouille des glaciers. Les deux vaudoises ont récidivé hier en compagnie de la Haut-Valaisanne Alessandra Schmitt.
Pour la météo, un ciel changeant pour aujourd'hui et demain. Météo complète à la fin de ce journal. Un journal qui nous est présenté par Léa Journaux. Bonjour Léa.
Bonjour Axel, bonjour à tous. Une course très spéciale s'est déroulée en fin de semaine dernière à Vouvry. Près de 1500 élèves issus des écoles du Haut-Lac, de Viona à Saint-Gingolf, ont couru en faveur de Rayon of Asha. Présidée par une enseignante en primaire à Vouvry, cette association active en Suisse et en Inde a l'ambition de construire une école pour jeunes filles à Pune, métropole indienne de plus de 5 millions d'habitants. Debout au bord de la piste en supportrice, la directrice des écoles du Haut-Lac retient l'esprit fraternel qui planait au-dessus et autour du stade Saint-Denis de Vouvry. Suzanne Masseret au micro de Guillaume Abbé.
Oui, c'est vraiment une valeur qu'on veut porter, qui est importante pour nos jeunes de sentir qu'on peut s'investir pour les autres. La solidarité, peut-être particulièrement à notre époque, qui est importante, l'entraide et puis se serrer les coudes. Oui, c'est vraiment une valeur qu'on veut défendre et qu'on aimerait défendre à long terme aussi en se disant que c'est des actions qu'on doit refaire.
Chaque coureur a dû trouver un parrain qui le sponsorise en fonction du nombre de tours effectués en une demi-heure. Après la course, Marina, 8 ans, élève de 4H, était aux anges.
Bah, j'avais envie que tout le monde me félicite, que je fasse 12 tours, mais j'en ai fait 10.
Et puis, qui c'est qui te parraine ?
Ma maman. J'ai failli fondre en larmes. Bah, parce qu'elle m'a dit qu'elle n'allait pas venir, mais au final, elle est venue.
Les élèves et les enseignants du cycle d'orientation du Haut-Lac ont aussi participé à la course d'entraide. Ils se sont élancés après les primaires. Les résultats financiers de l'opération seront connus au mois de mai.
La deuxième édition du festival Existe s'est déroulée ce week-end au Théâtre du Crochetan à Montet.
Pour rappel, ce festival met en lumière toutes les formes de la culture hip-hop, de la danse à la musique en passant par l'art visuel urbain. L'ambiance était folle et les murs du théâtre tremblaient durant le show du soir, relate David Gross du duo Cooper et Voldo. L'organisateur s'est réjoui de la diversité des spectateurs présents.
On a touché un très très large public et ça c'est génial, c'est tout ce qu'on veut en fait, c'est de voir autant des enfants que des personnes âgées qu'un âge plutôt jeune, voir se mélanger ces publics-là, des publics qui viennent de partout, aussi des rencontres, des gens qui sont plus vus depuis longtemps, qui peuvent vraiment partager un moment autour de l'amour de la danse et de la passion de cette culture hip-hop, vibrer au son de la musique de DJ Nelson et tout ça, c'est vrai que ça amène une vibe dans le théâtre et le technicien du théâtre qui est là depuis 30 ans disait mais moi j'ai jamais vu le croire comme ça.
Avec une présence marquée de personnes non initiées à la culture hip-hop, l'organisateur ne craint-il pas de perdre en authenticité ? La réponse de David Gross.
Non, pas vraiment, parce que c'est vrai que nous, on reste propre aux valeurs du hip-hop et on pose la chose sur le plateau et les gens la voient telle qu'elle. Vraiment, ils voient ce milieu underground-là qu'ils n'ont peut-être pas l'habitude de rencontrer. C'est vrai que les battles, c'est plus quelque chose de niche. Le public qui vient, c'est souvent des publics danseurs ou familles des danseurs. Mais là, le fait d'amener ça dans un théâtre, on permet à plus de gens de rencontrer cette culture et de prendre connaissance de tous ces artistes-là qui brillent en Suisse et également à l'international.
Satisfait de la fréquentation avec près de 500 visiteurs, les organisateurs annoncent un troisième opus du 4 au 5 avril 2025. Un sujet réalisé par Guillaume Abbé.
On reste à Montet où le projet Bientôt à l'école va démarrer cet automne.
Financé par le service cantonal de la jeunesse, il vise à faciliter la première rentrée scolaire d'enfants et de familles non francophones. Un groupe allophone sera mis sur pied dès le mois de septembre au sein de la crèche La Tonquinelle. Le but est d'acquérir une connaissance de la langue locale et de bonnes compétences de base avant de commencer l'école.
Le PLR Valais a lancé la campagne des municipales jeudi dernier à Montet lors de son assemblée générale.
Deux jours plus tard, la section locale publiait la liste de 6 candidates et candidats pour le conseil municipal. Clair, les objectifs des libéraux radicaux montésans sont 3 sièges plus la présidence de la commune. Une intention martelée en début d'assemblée générale par le président sortant du PLR valaisan, Florian Piazenta. Une position qui efface toute ambiguïté mais qui n'ajoute pas de stress, selon le chef de campagne du parti montésan et président du conseil général, Antoine Belvalde.
Ça rajoute pas de pression, ça montre l'enjeu et l'importance. Et cet enjeu, cette importance, on en avait conscience. On se donne les moyens aussi à nouveau de proposer à la population des alternatives, des candidats de qualité. On sait maintenant que le président actuel ne se représente pas. Donc d'autant plus, il faut qu'on élise quelqu'un à la tête de cette ville pour les 12 prochaines années ou pour le futur. Et on va construire, à l'image des présidents précédents, tout ce qui va se faire. On va finir certains projets, c'est clair. Mais c'est ce que va apporter la liste dans son ensemble.
Antoine Belvalde au micro de Guillaume Abbé. Les Valaisannes et Valaisans éliront leurs autorités les 13 octobre et 10 novembre 2024. La situation est délicate en Valais en raison des nuits froides qui se poursuivent cette semaine et du risque de gel qui en découle. Du Léman jusqu'à Sierre, tous les types de cultures, que ce soit les fruits, légumes ou encore les vignes, tant en plaine que sur les coteaux, sont sous surveillance.
Et pour la 12e année consécutive, les eaux du Léman n'ont pas été complètement brassées.
Les données de la CIPEL, la Commission internationale pour la protection des eaux du Léman, indiquent une profondeur de brassage de 100 mètres, un chiffre inférieur à la moyenne de ces 10 dernières années. En cause, les températures plutôt élevées enregistrées cet hiver, lesquelles ont maintenu la concentration en oxygène des couches profondes, à un niveau préoccupant pour la santé de l'écosystème lacustre. La Suisse a de nouveau un astronaute à part entière. Le Bernois Marco Ziber a été officiellement admis dans le corps des astronautes de l'Agence spatiale européenne aujourd'hui, au terme de sa formation de base à Cologne en Allemagne. A noter que Marco Ziber est le deuxième astronaute suisse après le vaudois Claude Nicollier. Le chanteur Kenji Girac a été très grièvement blessé par balle aujourd'hui dans les Landes et hospitalisé ensuite à Bordeaux. Son pronostic vital n'est plus engagé après l'avoir été un temps, a-t-on appris de sources proches du dossier. A noter encore qu'une enquête a été ouverte. Et on passe au sport. Pas de record, mais une performance de choix pour le trio composé de Caroline Ulrich, Thibaut Dessen et Alessandra Schmidt. Les trois femmes se sont imposées hier dans la catégorie féminine sur la petite patrouille des glaciers après un effort de 3h41 minutes et 52 secondes. Pour les athlètes de la Tour de Paix et de Lézin, il s'agit de la deuxième victoire consécutive après 2022. Il aura toutefois manqué 9 minutes pour battre le record de temps sur le parcours. Pas de quoi décevoir toutefois fois les vainqueurs du jour qui voient déjà en grand pour 2026. Caroline Ulrich.
Je pense qu'on va quand même laisser de côté ce record et puis on va partir sur la grande dans 2 ans. Et puis on verra pour les objectifs, mais pour le moment déjà l'affaire, c'est déjà un gros truc.
C'est un rêve cette grande patrouille.
Oui, je pense que c'est un rêve, oui. Ouais, quand on voit ici, quand on arrive à Verbier, même avec une seule course, le monde qu'il y a, ça fait immense plaisir, ça met des étoiles dans les yeux.
Et chez les hommes, c'est un trio européen qui a remporté cette petite PDG 2024, composé d'un Andorran, d'un Norvégien et d'un Allemand. Oriol Holm-Rupert, Eric Kervatn et Finn Hoesch ont bouclé le parcours de 26 km en 3h14 minutes et 23 secondes, non sans souffrir. Les précisions d'Oriol Holm-Rupert.
Aujourd'hui, vous avez vraiment très 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 froid. C'était éprouvant au sommet. Ah, fallait pas y rester, en plus on était en combi, donc fallait faire au plus vite. Aussi techniquement, c'était compliqué parce qu'avec le froid, les peaux elles collaient plus. Les particules de neige entraient beaucoup plus facilement dans les peaux, donc fallait être vraiment en équipe team, fallait vraiment être en esprit d'équipe. Et c'est ce qu'on a fait. Donc on est super contents, on n'a rien lâché. Dès qu'on pouvait pousser, on poussait. On a tout fait pour.
Et c'est un trio autrichien qui a pris la deuxième place juste devant le Team Gruyère. Ce sujet a été préparé par Thierry Nicolet.
La première édition de la course Up and Down a eu lieu samedi à Aigle.
Des populaires aux élites, en passant par les écoliers, ils étaient 500 à fouler les pentes boueuses de la forêt du Failly. François Leboeuf, membre du comité d'organisation et coureur, évoque l'importance et le plaisir de créer une course ouverte à tous et notamment aux enfants.
D'avoir déjà développé le plaisir des jeunes, puis moi je le vois quand on amène les classes là, on a eu beaucoup d'élèves qui sont venus parce qu'une fois qu'ils l'ont fait une fois, tout le monde se prend en jeu, même ceux qui ne sont pas coureurs, au pire tu marches la montée, puis tu as tellement de plaisir en descendre que ça donne envie de courir. Même hier, juste en balisant le parcours, t'as juste les étoiles dans les yeux juste à voir le chemin, puis à, tu vois, il faut juste que les gens le vivent, puis après ça va se développer tout seul.
François Leboeuf au micro de Basile Dayer. À noter que de l'autre côté du globe, au Japon, les Chablaisiennes Maud Matisse et Thérèse Leboeuf, l'épouse de François, ont brillé ce week-end en montant toutes les deux sur le podium des Golden Trail Series.
L'actu en continu sur radiochablais.ca. Bonne nuit sur Radio Chablais.
Plan large.
Plan large.
Jusqu'à 13h.
Entre émotion et évasion. Plan large. Plan large.
Sur Radio Chablais.
L'entretien de Florian Barbet.
Hélène Jacobé, bonjour.
Bonjour.
On s'est donné rendez-vous à Martigny. C'est un lieu de passage pour vous. Vous êtes romancière. Vous publiez un premier roman chez Favre et Héloïse d'Ormesson. Donc double édition, une en Suisse, une en France. Le Lotus Jaune, on va en parler. C'est un roman historique. Ça se passe en Chine. Rien à voir avec Martigny. Mais pourquoi ce... Bon, vous habitez Fribourg, vous. Hein, on va dire que Martigny est un lieu de passage.
Oui, et puis je passe souvent par Martigny. Enfin, j'y passais déjà enfant pour aller à Chamonix où on allait souvent en vacances. Et c'est un endroit où je retrouve souvent ma maman, où on va voir les expositions de la Fondation de Janada, se promener dans le parc et parfois manger au Kwan Boon, qui est le très bon restaurant chinois du coin. Voilà. Donc,
alors, Martigny, on aime bien. C'est là que vous avez puisé votre désir de Chine ou...
Bah, je pense que ça, oui, ça, quelque part, ça a nourri un goût peut-être. Oui, probablement, ouais, ça a commencé par ça, la Chine, pour
bon,
moi.
On va dire, Martigny, hein, comme cette vallée du Rhône, est une étape de l'Orient Express, hein, donc peut nous emmener vers l'Orient. Alors c'est l'Orient, Proche-Orient, mais on peut imaginer qu'après le train continue vers l'Extrême-Orient où vous nous emmenez, Hélène Jacobé, avec ce Lotus Jaune. C'est un roman historique autour d'une femme réelle qui a existé, vous allez nous en parler, et puis qui se déroule autour de l'année 1900 dans ce qu'on appelle la révolte des boxers, des boxeurs en français, dont on va assez largement parler aussi. Moi, je me suis imaginé en lisant votre livre, voilà une cynophile qui va rencontrer un cynophile d'ailleurs, mais pas avec la même orthographe, parce que moi j'aime beaucoup mon chien, mais, et qui parle probablement chinois et qui est fille de diplomate, qui a vécu 10 ans en Chine.
Non, pas du tout, j'ai entendu ça dans une interview. Non, non, et justement, en fait, ce qui est marrant, c'est que je me rends compte qu'il y a vraiment, alors là, pour le coup, une imposture, parce qu'on me dit, ah, mais alors vous êtes sinologue, vous êtes prof de chinois, pas, alors vraiment pas du tout. Donc moi, je suis prof de français à Fribourg, dans un collège, à l'école de com, et en fait, pour moi, la Chine, c'était un petit peu... Alors, j'aime bien la Chine. Bah, je vous dis, la cuisine chinoise, mes parents, ils aimaient bien. Ils nous emmenaient volontiers. Il y avait tout ce cinéma...
Il m'arrive de faire un karaoké, bon...
Oui, ah, oui, très volontiers aussi. Et puis, il y avait tout ce cinéma des années 90, où, que ma maman nous emmenait voir, il y avait le Palanquin des Larmes, le
Avec
Dernier Empereur. Oui, alors, je ne l'ai pas vu petite, celui-là, ouais. Parce que... bon. Mais il y avait tout ce cinéma qui était inspirant. Et donc, moi, la Chine, je connaissais comme ça, vraiment, disons, comme une étrangère, quoi. Enfin, ouais. Vraiment, pour son côté exotique, le cirque aussi, hein, dont je parle, avec ces lions dansants, ces gymnastes qu'on voit, que j'ai vu au cirque Kini, certainement. Donc, moi, la Chine, je connaissais comme ça.
Mais quel pas, hein, entre voilà, moi aussi j'ai vu le Dernier Empereur, un certain cinéma,
un
je
pas,
n'ai pas
alors,
consacré,
vous d'un
c'est
pas,
un pas gigantesque que vous avez fait.
C'était un énorme travail, franchement, ouais. Pour être honnête, j'ai passé du temps en bibliothèque, puis surtout en me disant, bon, au début je me suis dit, oh, je vais pas me laisser effrayer, j'ai fait une première version, romanesque, en me disant, bah, de toute façon, qui va lire mon bouquin, première version romanesque. Là-dessus, Covid, les bibliothèques ferment, bébé, donc on a mis tout ça de côté pendant un petit moment. Et puis après, je me suis dit, non, mais cette version romanesque, quand même, ça ne me convenait pas. Parce que plus je me mettais dans l'histoire, plus le personnage m'intéressait. Mais un personnage historique, on ne peut pas juste le fantasmer, en fait. Il fait partie d'une réalité sociale, politique, géographique. Et donc, je me dis, non, mais là, je viens en bibliothèque et je cherche. Et du coup, en fait, c'était hyper intéressant. Mais je pense que la Chine, c'est pas forcément le plus important dans cette histoire. Et l'aspect civilisation chinoise, bah, voilà, enfin oui, c'est intéressant, mais finalement, j'ai fait le job de pré-mâcher cette histoire pour qu'on puisse la comprendre. Mais moi, ce qui m'intéressait, c'était l'histoire.
Le destin voilà. D'une femme. Bon, alors ça, oui, évidemment, moi aussi, ça m'a intéressé, le destin de cette femme. Je suis votre lecteur. Mais tout ce qui va. Moi, je suis un grand mangeur de romans historiques. Et c'est clair que si tout ce qui va autour est insuffisant, moi, j'ai très peu de connaissances sur la Chine. Mais ça marche pas, en effet.
Donc,
le deuxième job que vous avez fait, il est essentiel.
Oui, puis je pense que pour comprendre ce qu'elle a, parce que moi ce qui m'intéressait vraiment, bon il y a eu la photo sur Wikipédia, je me disais, mais il y avait quelque chose qui ne matchait pas, c'était le fait qu'elle soit guérisseuse. Donc les guérisseurs, il y en a, enfin à Fribourg il y en a beaucoup, en Valais il y en a beaucoup aussi, les guérisseurs c'est des gens très modestes, très discrets, et là tout à coup, elle pose avec, donc sur une photo, les Chinois ne se faisaient pas du tout prendre en photo, en meneuse de guerre.
On est en 1900. Hein,
en 1900, ouais. Ouais, mais voilà, oui, à l'époque, ouais, elle ne se faisait pas prendre en photo, les femmes étaient vraiment confinées. Et là, il y avait quelque chose qui pour moi ne matchait pas et que je voulais comprendre. Et finalement, le roman, c'est une proposition de quelque chose qui a pu être possible.
Ouais, on va raconter quand même un peu cette histoire de photo, hein, parce qu'on a affaire donc à un personnage historique qu'on connaît comme une des personnalités, on va dire la passionnaria, hein. C'est pas cohérent avec la Chine probablement, mais de cette révolte des boxers, qui est prise en photo en effet avec une douzaine d'autres femmes, et qui est un vrai personnage historique. Elle s'appelle Lin Ayer.
Voilà.
Vous ni moi ne savons comment
tout
ça se prononce exactement.
Un mystère de plus.
Et donc historiquement, si on laisse de côté ce que vous avez fait d'un point de vue romanesque, qu'est-ce qu'on sait d'elle?
Alors, qu'elle a vécu, qu'elle a posé et qu'elle a fait défiler, en tout cas que ses milices ont défilé à Pékin devant l'impératrice au moment de cette révolte. Voilà, ça c'est historique. Et puis c'est à peu près tout. Le reste c'est des chansons, des poèmes, et notamment cette réputation d'être capable de soigner les gens en claquant des mains. Voilà, donc une réputation de miracle. Le reste, moi j'ai cherché, j'ai pas trouvé beaucoup plus.
Bon, vous nous conviez à un choc de civilisation, hein, une civilisation chinoise millénaire avec ses traditions un peu obsolètes si on imagine ce qu'était l'enthousiasme conquérant de l'Europe au 19e et au 20e siècle, mais riche, hein, civilisation extrêmement riche, précoce par rapport à la civilisation européenne d'ailleurs, hein, j'ai regardé un peu l'histoire de la Chine, du coup la dynastie des Song, hein, l'an 1000, déjà l'imprimerie, déjà la poudre, déjà toutes sortes d'inventions, alors que le Moyen-Âge profond était encore notre lot en Europe. Et c'est le choc entre ces deux mondes. Et vous nous racontez finalement une révolte populaire due à l'arrivée des Européens, l'arrivée des chrétiens, déjà depuis quelques décennies, hein, dans cette Chine.
Ils n'avaient pas le droit de s'installer. En fait, c'était... il y avait quelques jésuites à la cour de Pékin, mais qui étaient un peu des intellectuels, j'ai l'impression qu'on montrait comme des bêtes exotiques finalement, c'était un petit peu même précieux finalement d'avoir un jésuite, mais ils n'avaient pas le droit de s'installer. Et c'est après les guerres de l'opium que les Chinois ont perdu, donc où les Britanniques ont importé illégalement de l'opium en Chine.
On va raconter cette histoire, voilà. c'est absolument dingue, c'est
quand même assez dingue. Et après avoir perdu ces guerres de l'opium, les missionnaires ont le droit d'entrer dans les terres chinoises, et là du coup de prêcher, et ils ont complètement bouleversé la société, enfin l'organisation sociale,
l'harmonie, qui n'était pas évidente. Le feng shui, on le voit souvent passer dans votre livre, c'est pas, nous on voit ça comme un magasin avec des petits jets d'eau et des petits faux jardins. Chez eux c'est une réalité, il faut que le monde soit harmonieux, et l'arrivée
alors,
des
ça
étrangers
l'était, et visiblement ce qui, alors moi ça m'a étonnée et ça m'a épatée quand j'ai fait mes recherches, c'est que depuis la guerre des boxers, où toutes les superstitions justement ont été malmenées par la guerre, Les Chinois n'aiment pas trop parler du feng shui, par exemple, ou des rituels autour du kung fu, parce qu'il y avait beaucoup de rituels magiques. Et comme ils ont été malmenés, ils ont peur de passer pour des gens superstitieux. Donc on n'aime pas trop parler de ça. Mais à l'époque, effectivement, un village était conçu selon les préceptes du feng shui, et notamment autour des tombes des ancêtres. Et c'était ça qui a vraiment exaspérer les Chinois, c'est que typiquement les Allemands voulaient construire des chemins de fer pour traverser le Shandong, et en passant sur les tombes des ancêtres. Et pour les Chinois, c'est pas possible, ça.
Bon, il y a une arrogance européenne qu'on a connue au temps du colonialisme vainqueur et triomphant dans toutes les parties du monde. Mais ce qui est intéressant avec la Chine, c'est qu'ils arrivent dans une civilisation très installée. Ils n'apportent pas à la civilisation, ils apportent juste un autre modèle, et ce modèle ne passe pas. On va revenir un peu sur ces guerres de l'opium, parce que ça, je pense que peu de gens le connaissent chez nous, et c'est essentiel, c'est extraordinaire quand même ce qui s'est passé, et à quel point l'Europe, en l'occurrence là c'était en tête de pont la Grande-Bretagne, parce que c'était la première puissance mondiale à l'époque, a utilisé toutes les méthodes de crapule pour s'imposer.
Tout à fait, alors là vraiment c'est crapuleux, c'est le mot, mais en fait ce qui se passait, c'est que à cette époque, au 19e siècle, tous ces grands empires voulaient commercer, voulaient installer leur étendue impérialiste. Et en fait, ils ne voulaient pas forcément envahir, mais ils voulaient commercer. Notamment, ils voulaient du thé, la soie, etc. Et pour les Chinois, pas de souci, tant qu'on se prosterne devant l'empereur. Parce que l'empereur est le maître. Et ça, les Britanniques ne pouvaient pas le faire, donc ils n'avaient pas le droit d'entrer. Et donc, ils cherchaient un levier pour pouvoir commercer, parce que les Chinois, eux, ne voulaient pas du tout acheter ce que proposaient les Britanniques.
Des produits manufacturés.
Et puis en plus, ils voulaient qu'ils le payent en argent. Et les Britanniques ne voulaient pas, ils voulaient troquer. Donc, il y avait vraiment un problème qui était commercial. Et donc, ils cherchaient un levier, et ça a été l'opium. Donc, l'opium qui était fabriqué en Inde. Donc, c'était pas très loin pour le faire venir en bateau. Le risque était assez faible. Donc, ils se sont dit, on essaye. Et comme les Chinois souffraient beaucoup de la faim, d'un travail très dur, de conditions de vie terribles, l'opium, ça a été pour eux, ça a marché très très fort. Cette histoire
on a cassé les prix, on a vraiment fait une politique de mafia, quoi. Rendre les gens dépendants pour s'assurer une balance commerciale. C'est
voilà.
Ça, en fait.
Et en Angleterre, d'ailleurs, les gens, les Anglais n'étaient pas très preneurs. Il y a beaucoup de gens qui critiquaient. D'ailleurs, il y a même une lettre, je crois, qui est arrivée à la reine Victoria, mais elle dit qu'elle ne l'a jamais reçue pour dénoncer cet état de fait.
C'était interdit en Angleterre, l'opium.
C'était interdit. Ouais. Et puis, pour dire, on ne doit pas traiter les Chinois de cette façon-là. Les Anglais préféraient ne rien voir. Et puis, quand les Chinois, eux, à un moment, se sont dit stop, maintenant, il y a un dignitaire chinois qui a été jeté la cargaison d'opium dans la mer pour dire maintenant ça suffit. Ils se sont dit, casus belli, on attaque. Parce que
c'est la politique de la canonnière. Voilà. On va avec des bateaux. Alors là, on voit le choc de la modernité. La Chine n'est pas au point militairement, simplement. Mm-hmm. Et on va avec un gros bateau, des canons pointés sur un port, on menace, on canonne.
Voilà. Et là, du coup, les Chinois, surprise, surprise, ont découvert que l'industrialisation était en Europe et pas chez eux. Mm-hmm. Et puis là, ils ont dû se plier. Et ça a été ce qu'ils appellent le siècle de l'humiliation, donc les deux guerres de l'opium, et ensuite la guerre des boxeurs, ils ont perdu toutes ces guerres les unes après les autres, en essayant, donc c'est Cixi, l'impératrice, qui essaye vainement de tenir le choc, mais ça a été très très dur. Et je crois que pour les Chinois, c'est pas encore passé. Visiblement, ce siècle d'émulation.
On va en parler dans la deuxième partie. Ouais, il y a une vision du monde des Européens qu'on ne comprend pas non plus. Et on se demande pourquoi tout le monde nous déteste. On a peut-être une clé, grâce à vous, de se replonger dans cette histoire-là. C'est essentiel, comment on a traité les autres.
Il faut comprendre comment eux nous voient, je pense. Ouais. Ouais.
Mm-hmm. Bon, on va se retrouver d'ici quelques instants pour la deuxième partie.
Bonne nuit sur Radio Chablais.
Blanc. Large.
Jusqu'à 13h.
Entre émotion et évasion. Plan large.
Sur Radio Chablais.
L'entretien de Florian Barbet.
Hélène Jacobé, on se retrouve pour la deuxième partie de cette émission autour de ce personnage, donc Lina Yeh, on l'a bien compris, vous nous l'avez expliqué, personnage historique, défilé de jeunes femmes devant l'impératrice à Pékin pendant cette révolte des boxers. Vous romancez son histoire avec une histoire de la pauvreté déjà. Mm-hmm. Quelqu'un qui vient de d'un milieu très très modeste.
Oui, alors d'un milieu très modeste, donc c'est la fille d'un batelier. Mais justement, ce qui est intéressant, c'est qu'elle a eu deux métiers, voire peut-être trois, qui permettent de faire les liens entre toutes les strates de la société. Parce que ben, les artistes de cirque, évidemment, rencontrent plein de gens.
Hein, les batelières, elle va devenir, enfin, les filles de batelière, elle va devenir artiste de cirque.
Donc, elle va dans les, elle connaît la culture, la musique, les danses. Enfin, elle connaît sa culture. Et puis, bon, prostituée, évidemment, j'imagine qu'on rencontre pas mal de monde. Et puis, guérisseuse, ben. Tout le monde peut être amené, quand on souffre, à aller voir un guérisseur pour lui demander conseil. Oui. Et visible, enfin, je pense, c'est comme ça en tout cas que je l'ai imaginé, comme quelqu'un qui finalement vient de la pauvreté, vient de l'humilité, mais qui est capable de passer toutes les portes et d'aller à la rencontre de tout le monde en fait.
Oui, ça lui permet ce chemin-là que vous inventez, ou en tout cas que vous inventez à moitié, lui permet de connaître les pauvres, connaître les riches, voilà. Parce que comme guérisseuse, elle va avoir affaire aux riches, ceux qui connaissent les trames de ce qui se passe, hein, parce qu'on a décrit une opposition frontale entre la Chine et l'Occident. On peut aussi parler de ce qu'on appelle aujourd'hui des collabos, de ceux qui voulaient aller dans ce système-là, ceux qui ont retiré des richesses. Mm-hmm. Donc elle comprend, elle connaît tout ça, et vous en faites quelqu'un de très réticent. Hein. Elle veut pas aller à la baston. Ben, c'est pas une passion. J'utilise le mot passionnariat, c'est pas ça en fait.
Ben moi je l'imagine comme ça parce que mais pendant toute l'écriture du roman, hein, je me suis dit mais peut-être que c'est une mystificatrice cette femme, parce que justement comment si on est guérisseur, donc on a ce don, c'est pour faire le bien, et évidemment que si on en fait quelque chose de pas bien, il est retiré, enfin c'est un peu ce qu'ils disent, hein. Et du coup pour moi ça ne marchait pas, et je me suis dit mais alors comment, pourquoi est-ce qu'elle a réussi à en faire quelque chose de bien, parce qu'elle a cette réputation quand même d'avoir fait du bien à beaucoup de gens. Donc si c'est une mystificatrice qui a juste été là, puis qui c'est, je sais pas, quelqu'un qui avait la haine contre les étrangers comme tous les autres, bon c'est possible, mais je ne l'imagine pas comme ça. Moi je l'imagine plutôt parce que en fait il y a eu un avant et un après. Après Linéaire, les femmes sont sorties de chez elles. C'est quelque chose qu'elles ne faisaient pas avant, mais après ces milices. Il y a eu des femmes journalistes, il y a même une femme condamnée à mort pour outrage politique. Enfin, tout à coup, elles ont existé. Donc, elle a déverrouillé quelque chose.
Elle reste, on peut faire un parallèle foireux, hein, avec Jeanne d'Arc, mais enfin, elle reste quelqu'un en Chine, hein, aujourd'hui,
oui,
cette Linéaire.
Oui,
elle reste dans les mémoires, elle reste
statue,
une personne.
Oui. Oui, oui, donc moi je l'ai imaginée comme ça, réticente, parce que je ne comprenais pas, parce que vraiment, voilà, moi ce qui m'intéressait, c'était ce destin de guérisseuse, en fait. Voilà, comment, dans une période de guerre et de haine, garder finalement un cap. Et alors, j'ai imaginé une histoire comme ça, voilà, qui me paraissait plausible. Hein.
Le Lotus Jaune, hein, c'est le titre de votre roman, c'est aussi le nom de son école, son havre, hein, qu'elle crée justement pour recueillir des jeunes filles abandonnées. On n'a pas parlé de ça, mais il y a la fin.
Oui.
J'ai pas noté le passage, mais il y a un moment terrible où sur un paragraphe, vous décrivez la famine dans les campagnes, et vous terminez par, très sobrement, ils ont mangé de l'herbe.
Oui, hein, et ça c'est historique, ça voilà. Je l'ai pris dans les livres d'histoire, ils ont vraiment mangé de l'herbe, mangé des vers. Parce qu'il y a eu plusieurs séries d'inondations où ben voilà, il y a eu, je crois, 3 ou 4 hivers où les paysans n'ont pas cultivé.
Donc, elle recueille ses femmes, elle les forme, elle leur donne un gîte, mais aussi une formation dans les métiers du cirque, d'ailleurs, qu'elle connaît bien. Certaines, elles veulent en faire des guérisseuses aussi, hein, si elle perçoit le don. Et puis, ça va devenir une des milices de cette révolte des boxeurs, les Lanternes Rouges. Voilà. Ça aussi, c'est historique.
Ça, c'est historique. Alors, les Lanternes Rouges, c'était une des milices, d'ailleurs, justement, parce qu'il y avait les lanternes rouges, les lanternes bleues, les lanternes vertes, les lanternes noires. Et en fait, ces femmes étaient organisées par classe d'âge, ou alors les veuves, les mères. Et puis, les lanternes rouges, c'était les jeunes, les vierges, donc évidemment les plus jolies, qu'on mettait en rouge, donc bien visibles. Et donc, c'est ça que, je pense, l'histoire a retenu. Mais elles étaient organisées vraiment... elles étaient ensemble, en fait. Et ça, j'ai trouvé aussi très beau dans l'histoire de Linéaire, c'est qu'elle a mis ces gens ensemble. Et ça, c'est une tradition chinoise... qui mérite, je crois, d'être connue, c'est justement ces sociétés d'entraide, hein, et qui sont à l'origine, hein, de ces boxeurs qui sont des congrégations de gens à la limite des mafiosos, hein, mais
voilà, nous on a dit boxeurs, c'est un peu vulgaire, hein, c'est un peu occidental. Eux c'était la milice du poing et de l'harmonie, hein,
ouais, c'est tout ça.
Autre chose.
Le poing de la justice et de l'harmonie, ouais. Oui, ah ouais, c'est bon. Alors il y a plusieurs traductions qui sont toutes plus belles, ouais, les unes que les autres. Alors on imagine ce poing levé, ouais. Ah ouais.
Avec cette idée d'armes. d'harmonie toujours présente. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, elle connaît tous les milieux par son parcours, elle parle aussi avec tous les milieux. Et ça, c'est pour moi une grande réussite de votre livre, c'est que vous ne nous abrutissez pas d'abord de noms de famille compliqués pour nous, hein, parce que contre-intuitif, difficile.
C'est ça, ouais.
Vous donnez des surnoms à certains des personnages, et puis par son travail de guérisseuse, elle va parler à quelqu'un qui est très en cours, donc qui est un commerçant, mais qui a, ou un intellectuel qui a une vision de ce qui se passe d'un point de vue politique. Elle va aussi parler aux pauvres, et donc on a finalement une histoire globale de cette révolte des boxers dans tous les camps, grâce à elle et grâce à ses rencontres et à ses discussions un peu philosophiques souvent autour de ces événements.
Oui, alors tout à fait. Donc ces personnages, j'avais besoin d'eux en fait, hein, pour expliquer l'histoire, parce que je vous dis, c'est l'histoire de Linéaire, ça fait partie de ce contexte à ce moment-là, dans ce pays-là, voilà. Mais si je voulais vous dire, ça y est, zut, j'ai perdu le fil. Vous me disiez par rapport au fait qu'elle.
Elle permet d'avoir une vision globale. Je pense pas qu'il y ait trop à rajouter là-dessus, grâce à ces rencontres justement, et à la façon. Je vous disais que c'était une réussite, que vous le faites de façon très harmonieuse. Hein, ce sont des rencontres naturelles, des discussions naturelles qui nous permettent de comprendre le contexte historique. J'aimerais qu'on termine cette discussion avec justement comment l'Europe et comment votre livre nous crie, et ça je trouve très important, ce qu'a été la colonisation, hein, dans un cas précis qui est celui de la Chine. Il n'y a pas eu d'occupation territoriale, mais il y a eu des méthodes de voyous. On a parlé de la guerre de l'opium tout à l'heure. Il y a eu des conversions.